Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
On va réfléchir à la destinée de la droite en France. L'échec cuisant de la liste de François-Xavier Bellamy aux élections européennes est-il celui d'un homme, d'une ligne idéologique, ou bien est-ce le signe qu'un pan entier de notre histoire politique nationale est en train, j'allais presque dire, disparaître du paysage? Pour en discuter, nous sommes en compagnie de Florence Hegel. Bonjour, vous êtes professeur au Centre d'études européennes de Sciences Po et vous avez notamment publié Les droites en fusion. Tout d'abord, une question, Florence Hegel. Est-ce le signe que la droite est en train de disparaître ou bien tout simplement en train de changer de nom? La droite s'appellerait maintenant par exemple La République en marche.
On n'est pas encore tout à fait là, même si vous avez raison, en fait, c'est bien La République en marche qui grignote petit à petit à la fois un électorat et, on l'a vu ce week-end, un certain nombre d'élus. Hein, au niveau local. S'agissant de l'électorat, ce qui a été frappant lors de ces élections européennes, c'est le fait que c'est bien La République en marche et la liste de l'oiseau qui ont rassemblé en fait les électeurs les plus âgés. Hein, l'électorat le plus âgé qui jusqu'à présent était vraiment le bataillon le plus important de la droite LR ou avant UMP. Donc là, il y a bien un mouvement de grignotage important. Après, comme vous le savez, on est dans une période où l'usure du pouvoir est très forte, où l'alternance s'accélère, et donc on peut pas non plus faire des plans sur la comète, sur des élections européennes, et les choses peuvent changer très vite.
On va ressortir nos classiques. Alors, le classique, c'est bien entendu « Les droites en France » de René Raymond, un ouvrage de 1954, où il expliquait qu'il n'y avait pas en France une seule droite, mais trois, issues des conflits de la Révolution française. Alors, il y avait la droite légitimiste, qui était donc la droite contre-révolutionnaire, la droite orléaniste, autrement dit la droite libérale, et la droite bonapartiste, qui était la droite césarienne. Où sont-elles, ces trois droites, aujourd'hui, Florence Hegel?
Alors, ça fait assez longtemps que la trilogie de René Raymond s'est brouillée, hein, d'un certain point de vue, et la création de l'UMP a été, de ce point de vue-là, une étape importante, hein, puisque quand même, elle a eu comme objectif de fusionner la partie, si on reprend le vocabulaire de René Raymond, la partie bonapartiste et la partie orléaniste. Hein. Et donc, les choses sont maintenant beaucoup plus difficiles à décrypter. Et j'en vois pour preuve, par exemple, c'est vrai que les plus opposants et les opposants à la ligne de droitisation de la droite, ce ne sont pas les centristes, ce ne sont pas les orléanistes, ce sont les ex-gaullistes, en tout cas les ex du RPR. Donc on voit bien que c'est plus compliqué que cette typologie.
Et alors précisément, ce gaullisme-là, ou en tout cas la manière dont le RPR envisageait le mot même de droite, d'abord comment pourriez-vous le définir, Florence Hegel, et puis où est-il aujourd'hui, s'il est encore important et présent dans le paysage politique français?
Historiquement, le gaullisme était à la fois ne se qualifiait pas comme de droite, hein, et d'ailleurs ne revendiquait pas d'être un parti. Hein. Et maintenant, on est tout à l'opposé, puisque d'un certain point de vue, les grands débats, c'est la question du parti, de la refondation partisane, ce qui est pas du tout gaulliste. Hein, et depuis, en gros, Nicolas Sarkozy, en fait, en réalité, en deux étapes. Hein, d'abord en 1981 avec l'alternance, hein, et quand la gauche est allée au pouvoir, puis avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, la revendication d'être de droite a été vraiment centrale. Et donc la droite s'est dite de droite, ce qu'elle ne faisait pas avant. Donc on est vraiment dans une situation où il y a eu véritablement une droite, hein, en France qui se revendiquait comme telle. Alors maintenant, où on en est dans une situation où, me semble-t-il, on va avoir le temps d'en parler, c'est vraiment la stratégie de droitisation, de cooptation des thèmes du Front National qui est au cœur du débat. C'est la question de la ligne qui est véritablement au cœur du débat et au cœur de cette crise.
Alors, cette ligne, on ne sait pas trop comment il faut l'appeler. Est-ce qu'il faut parler d'une doctrine Laurent Wauquiez, de la formule qui avait été mise au point par Patrick Buisson et qui expliquait qu'elle avait permis à Nicolas Sarkozy d'obtenir au second tour de l'élection présidentielle un score qui était plus élevé que celui qu'il pouvait imaginer. Patrick Buisson étant le théoricien de cette formule, évidemment, il plaidait en sa faveur. Est-ce le signe que ça, par exemple, ça ne fonctionne plus, ça fonctionne moins bien qu'auparavant, Florence Hegel?
Alors moi, je fais partie des personnes qui, depuis le début, disent que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Ça peut fonctionner à court terme, et ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy en 2007, où il a reconquis...
Ça a plutôt bien fonctionné.
Ça a bien fonctionné en 2007, mais on a en sciences politiques de nombreux travaux qui travaillent et qui ont vraiment analysé finement la manière dont les partis de droite, on va les appeler classiques, se positionnent par rapport à la droite radicale, parce que ce n'est pas qu'une question qui est soulevée en France, hein, c'est une question européenne. Et qu'est-ce que montrent ces travaux? Ils montrent que la stratégie, disons sarkozyste, parce que moi je crois que c'est la stratégie sarkozyste, hein, mise en place en 2007, en 2012, avec des différentes influences, mais assumée par Nicolas Sarkozy, elle consiste en deux versants. Premièrement, c'est coopter les thèmes du Front National, c'est-à-dire on va reprendre les thèmes du Front National sur les questions sécuritaires, identité nationale, immigration, et de l'autre, refuser une alliance avec le Front National ou le Rassemblement National. Et qu'est-ce que montrent ces travaux? C'est qu'en cooptant les thèmes, on les banalise, on les légitime, on les rend finalement plus populaires, et qu'en refusant l'alliance, on contribue à entretenir la capacité d'attraction du Front National et de l'extrême droite. Parce que, comme je l'ai dit, l'usure du pouvoir est très forte, mais tant que l'extrême droite n'est pas au pouvoir, elle s'use moins et elle continue à tirer. Donc, pour moi, c'est cette impasse stratégique qui éclate aujourd'hui.
Bon, je vais me faire, dans ce cas-là, le défenseur de la ligne Buisson. Dans son ouvrage « La cause du peuple », il explique donc évidemment que sa ligne a permis à Nicolas Sarkozy d'obtenir le score de 48,6%, ce qui était plutôt inespéré, dit-il, et qu'il n'aurait évidemment pas obtenu sans cette ligne-là. Mais les quelques pourcents qui lui manquaient à Nicolas Sarkozy pour l'emporter venait du fait qu'il y avait une incohérence dans la ligne sarkozyste. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas retrouver la même incohérence dans la ligne de François-Xavier Bellamy ou celle de Laurent Wauquiez, ou à la fois on a un parti de droite, les Républicains, qui campe sur une ligne assez conservatrice, mais qui est malgré tout pro-européen, et qui du coup se mélange un peu les pinceaux entre une ligne conservatrice et une ligne libérale, Florence Hegel? Est-ce que finalement, ce faible score, il n'est pas le fruit tout simplement d'un mauvais mélange, voire de deux substances impossibles à mélanger l'une avec l'autre?
Oui, mais c'est la ligne du libéralisme économique est une ligne qui renvoie véritablement à l'opinion et aux valeurs de l'électorat de droite. Donc ça serait très difficile de changer cette ligne. Quand on regarde, quand on compare l'électorat du Front National, Rassemblement National et de la droite UMP-LR, on se rend compte que là où il existe des différences très fortes entre les deux électorats, c'est sur les questions économiques, et donc sur l'attachement au libéralisme, au soutien des entreprises, etc., et sur les questions européennes. Donc vraiment, suivre jusqu'au bout les conseils de Buisson, c'est en fait faire exactement la même chose que le Front National, et donc perdre tout cet électorat libéral d'un point de vue économique et européen.
Mais vous avez une formule, alors c'est toujours compliqué d'adopter une formule étrangère, mais il y a une formule où on réussit à mélanger à la fois une forme de libéralisme absolument assumé et une forme de nationalisme et de conservatisme, c'est la formule Donald Trump. Alors, est-ce qu'elle est ou non représentée par Steve Bannon? Difficile de le dire, mais en tout cas, les Républicains auraient pu essayer d'adopter, d'agrémenter à la sauce française une telle formule, Florence Hegel. Est-ce que ça n'était pas ça la martingale possible pour eux?
Oui, sauf que le parti républicain nord-américain inclut en fait une droite très radicale. Il n'a pas à faire alliance avec une droite très radicale. Les Tea Party étaient une variante au sein du Parti républicain. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration qu'en Europe ou en France. Et le deuxième élément que je mettrai dans la discussion, c'est la question de la religion. Hein, c'est-à-dire que la droite conservatrice américaine est centrée aussi mm-hmm. sur l'identité religieuse. Et c'est ce qu'a voulu faire Laurent Wauquiez aujourd'hui. Hein, et c'est ce qu'ils essayent de faire et ce que essaye de faire aussi Salvini en Italie, par exemple, en mettant en avant les thèmes religieux.
Bon, bah alors, Salvini, ça marche bien.
Salvini, ça marche bien au prix d'une disparition quasi de Forza Italia, qui était quand même le parti conservateur équivalent à l'UMP.
Bon, ça c'est très triste pour Forza Italia, mais est-ce que ça ne veut pas dire que finalement une droite française plus habile aurait pu tailler des croupières au Rassemblement National, ce qu'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, et ce que ne parviennent plus à faire, semble-t-il, les Républicains?
Oui, mais Salvini est un allié du Front National. Ça marche bien en Italie pour la droite radicale. Ça marche pas pour la droite dite classique. Hein. Je garde ces catégories. Donc, ça dépend, marcher bien pour qui. C'est vrai qu'en Italie, la droite de type républicain a disparu. En tout cas, elle est très réduite. Hein. Et donc, c'est un scénario qui peut arriver en France. Après, moi, il me semble qu'on peut revenir aussi sur la variante qui a été la stratégie de Laurent Wauquiez. Parce que Laurent Wauquiez a poursuivi la stratégie de Nicolas Sarkozy avec une variante, c'est le fait de s'appuyer beaucoup plus sur la droite conservatrice d'un point de vue culturel, hein, sur les questions morales et culturelles. Ce n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, il n'avait pas insisté sur cette dimension. Donc ça, c'est la nouveauté. Et cette nouveauté, elle tient sans doute à ses convictions personnelles, mais aussi beaucoup au fait qu'il a dû être impressionné par la mobilisation de la Manif pour tous et penser que là, il y avait un noyau qui était un noyau sur lequel refonder la droite.
Vous parlez des convictions personnelles de Laurent Wauquiez. Alors, c'est impossible de sonder les reins et les cœurs, et peut-être d'ailleurs est-ce inutile, mais en tout cas, toujours si on reprend l'argumentaire de Patrick Buisson, lui, son problème, c'est la cohérence. C'est-à-dire de dire, là, en l'occurrence, ça s'adressait à Nicolas Sarkozy, on peut pas à la fois ne pas prendre en charge le destin de la chrétienté française, comme aurait dû le faire, selon lui, Nicolas Sarkozy, et, par exemple, évoquer la disparition de Michael Jackson. Il y a un hiatus, et donc, dans ces conditions-là, on peut pas être le grand leader de la droite conservatrice. Peut-être qu'il y a un procès en insincérité de Laurent Wauquiez qui reprend finalement le même type d'équivoque, Florence Hegel.
Je pense qu'il y a une différence. Nicolas Sarkozy, on peut lui reprocher, et Buisson peut lui reprocher, a opéré ce qu'on appelle une triangulation, c'est-à-dire qu'il a voulu à la fois prendre un peu à gauche, un peu à droite, mêler les références. Ça a marché sur le court terme, ça n'a pas marché sur le long terme. Laurent Wauquiez a une stratégie, lui, d'ancrage beaucoup plus fort dans une droite conservatrice culturellement et religieusement. Le problème, c'est que malgré la mobilisation très forte pour la manif pour tous, cette droite-là reste minoritaire.
Alors, ça veut dire que c'est la formule qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que entre les 8% des Républicains et les 48% de Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, il y a 40% d'électeurs qui ne se retrouvent pas du tout dans une droite conservatrice, Florence Hegel.
Oui, parce que ces mouvements conservateurs, hein, tels la Manif pour tous, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques des contre-mouvements, c'est-à-dire c'est des mouvements de résistance, hein, qui résistent à une évolution qui est générale, de fond, peut-être inéluctable, sur la libéralisation des mœurs. Donc c'est des mouvements qui peuvent avoir leur intensité en termes de mobilisation et faire des fortes manifs, hein, mais qui, quand il s'agit de les traduire en électorat, sont finalement trop minoritaires, très mobilisés, mais minoritaires, en quelque sorte.
Ça veut dire finalement que tous ces discours qu'on a eus sur le retour du conservatisme, bon, je n'aurais pas la cruauté de produire les différentes couvertures de News Magazine qu'il y a eu pendant la campagne des européennes où on évoquait une droite de retour, une vraie droite qui était enfin là. Bref, il y avait quelque chose qui se passait selon certains éditorialistes. Tout ça, ça n'existe pas en France, ou plutôt ça représente un tout petit nombre d'électeurs ?
Ben, les éditorialistes devraient plus lire les travaux de sociologie, hein, qui montrent que depuis des années, la libéralisation des mœurs, la transformation des valeurs vers plus de liberté individuelle avance. J'allais dire inéluctablement, c'est jamais inéluctable quand il s'agit des questions de société, mais en tout cas avance de manière très continue, et que donc ceux qui y résistent peuvent être occupés l'espace public, mais ne représentent pas beaucoup d'électeurs en réalité.
Mais oui, justement, comment vous expliquez que ça marche ailleurs ? Parce qu'on peut aussi les comprendre finalement, ces théoriciens qui se sont dit « la droite conservatrice en France va finir par payer », puisque on voit qu'aux États-Unis, l'avortement est un enjeu politique. On voit que Viktor Orban fait une surenchère dans le domaine du conservatisme. Qu'en Pologne, la question LGBT est devenue un enjeu politique, pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Bah vous ne citez que des pays où la religion est une matrice fondamentale de ces pays, que ce soit bien sûr aux États-Unis ou dans les pays de l'Est que vous citez, où le catholicisme est véritablement la matrice importante de ces pays.
Alors c'est la laïcité à la française.
Ce n'est plus le cas en France depuis très longtemps.
Alors c'est la laïcité à la française qui empêche de reprendre ce type de formule.
Ou la sécularisation de la société, hein, sans parler de simplement le fait que le groupe des catholiques pratiquants est maintenant très minoritaire. Et donc on ne peut pas appuyer une stratégie de reconquête de l'ensemble, disons, du peuple de droite sur une minorité qui est cohérente, qui est présente, mais qui reste quand même assez faible d'un point de vue quantitatif.
Mais alors, on le trouve aussi parce que en Pologne et en Hongrie, on assiste aussi à un mouvement de sécularisation. Il est peut-être moins accentué qu'en France, mais on explique en Hongrie, par exemple, que Viktor Orban remporte les élections en dépit du fait que les églises sont vides. Mais son discours religieux, je mets ça avec tous les guillemets qui conviennent, n'est pas rédhibitoire pour ses électeurs. En France, apparemment, il n'y a pas vraiment d'espace politique jusqu'ici, en tout cas, pour ce type de formule.
Non, du fait justement de la sécularisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui pratiquent la religion, et que par ailleurs, et là vous avez raison, que l'idéologie de la laïcité, c'est-à-dire la distinction entre la question politique et la question religieuse, a quand même façonné depuis très longtemps, disons, la culture politique française.
Florence Hegel, vous êtes professeure au Centre d'études européennes de Sciences Po. On va continuer d'évoquer la question de la droite, ses métamorphoses. On va reprendre son histoire et voir quelles responsabilités respectives Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, d'autres ont eu dans l'état actuel de la droite. Vous serez rejointe par Gérard Courtois. Il est éditorialiste pour le journal Le Monde. Il a notamment publié La fin d'un monde, chronique politique chez Perrin. Nous sommes en compagnie de Florence Hegel. Vous êtes professeur au Centre d'études européennes de Sciences Po, auteur des droites en fusion, transformation de l'UMP. Puis nous accueillons Gérard Courtois. Bonjour, vous êtes éditorialiste au journal Le Monde et vous avez notamment publié La fin d'un monde, chronique politique aux éditions Perrin. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Seitz ?
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé au lendemain du scrutin européen, c'est que aussi bien la droite que la gauche d'ailleurs se sont retournés vers le pouvoir en disant, vers le président de la République, en disant c'est affreux ce que vous avez fait, vous faites un jeu dangereux, vous êtes en train de réduire le débat politique à un affrontement rustique entre le camp du président, le parti présidentiel et l'extrême droite, ça va vous retomber sur le nez. Mais il y a une chose quand même qui est assez stupéfiante, c'est que si ça marche, peut-être que c'est un jeu dangereux, mais si ça marche, c'est bien parce que aussi bien la gauche que la droite n'ont pas su offrir une alternative sérieuse et convaincante à cette mise en opposition binaire de la vie politique et du système politique. Donc la responsabilité qui est renvoyée au président de la République, elle est d'abord la responsabilité des deux partis qui ont longtemps exercé le pouvoir et qui n'ont pas su se réinventer, réinventer leur doctrine et réinventer leur démarche.
Alors les deux partis n'étant pas dans une situation symétrique.
Non. Le PS a l'excuse, si je puis dire, d'avoir explosé au lendemain d'un quinquennat. Bon, alors la confrontation à l'exercice du pouvoir, dans des conditions difficiles, a provoqué une fracture qui a été irrémédiable. Irrémédiable en tout cas pour le président Hollande, et irrémédiable ensuite pour le PS. La droite, c'est plus grave. Traditionnellement, après une période d'opposition, on l'a vu au fil des années 80, 90 et 2000, voilà, cette espèce de mouvement de balancier un peu mécanique qui sur lequel était réglée la vie politique française faisait que 5 ans d'opposition permettaient de redonner une certaine virginité au camp qui était dans l'opposition. Là, 7 ans d'opposition et l'effondrement auquel on a assisté, symétrique de celui du PS il y a 2 ans, pour les Républicains au scrutin européen. Donc ça me paraît encore plus significatif de l'état de tétanie intellectuelle et d'absence de stratégie, accessoirement d'absence de leader, incontesté et reconnu, dont souffre la droite aujourd'hui.
Votre point de vue à ce sujet, Florence Hegel, quels sont aujourd'hui les différents scénarios pour la droite ?
Moi, ce qui me semble, c'est on a vraiment affaire à une transformation profonde, en fait, du système politique. Et je crois que la question de savoir on peut dire la France, votre pays ou votre parti, c'est derrière une remise en cause fondamentale de la forme partisane également, quoi. C'est-à-dire et du pluralisme partisan dont que vous évoquiez tout à l'heure. Donc moi, je pense que derrière ces différents scénario, il y a vraiment, est-ce que ça va se jouer dans le parti ou complètement en dehors du parti ? Et c'est vraiment ça le point un petit peu central. Alors, si ça se joue dans le parti, ça va passer par le fait de résister, que l'organisation partisane et les Républicains résistent avec un score minimum et avec beaucoup de défections et résistent en attendant en fait que les choses passent, hein. Et c'est vrai que les partis politiques ne sont pas immortels mais meurent très rarement. Hein, donc il y a cette stratégie de résistance. Et puis il y a l'autre scénario, qui est un scénario aussi qui est probable, c'est que la reconstruction d'un centre 3 en dehors du parti, la stratégie de Pécresse, voire de Xavier Bertrand, permettent en fait à ce type de d'organisation de prendre la mise si... Jamais il y a une forte usure d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et ça, il peut y avoir un rejet personnel, il peut y avoir une forte usure. Et d'un certain point de vue, il n'y a aucun doute qu'une partie des électeurs d'Emmanuel Macron se transféreront tranquillement vers Valérie Pécresse ou vers Xavier Bertrand. Donc il y aura juste un jeu de vases communicants. Et donc ça, c'est un deuxième scénario du fait qu'il y ait une forme de macronisme de droite incarné par l'un ou l'autre, et que d'un certain point de vue, tous ces électeurs plutôt modérés, plutôt légitimistes, se transfèrent de l'un à l'autre. Donc il y a vraiment... Et la différence, ça sera, est-ce que ça se fait dans le parti ou est-ce que ça se fait en dehors du parti ?
Frédéric Saïs.
Oui, ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'on sent que plusieurs des présidentiables de la droite font le calcul que ça se jouera complètement en dehors du parti. Valérie Pécresse quitte les Républicains la semaine dernière pour se consacrer à son mouvement qui s'appelle Libre, qui est pour l'instant pas un groupuscule, mais enfin qui n'est pas non plus doté de centaines de milliers de militants. Xavier Bertrand, qui a la Manufacture, c'est le nom de son micro-mouvement également, et qui se concentre sur sa région. Il y a l'idée effectivement qu'on n'a plus besoin forcément du parti comme en temps pour accéder au statut de présidentiable et pour gagner une présidentielle, d'une part parce que Emmanuel Macron a montré que ça pouvait se faire en très peu de temps finalement, que maintenant aujourd'hui les mouvements pouvaient se créer et disparaître de manière très très souple, et puis deuxièmement parce que le parti, les Républicains, n'a plus les atouts qu'avaient les grandes formations politiques en temps. On parle notamment des finances, hein, c'est en général un trésor de guerre, les partis politiques, pour le coup, il est surendetté, les Républicains. On parle aussi de la force militante, cet effectif a fondu sur les 10 dernières années depuis l'apogée de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il y a environ 100 000 militants, d'après les chiffres revendiqués par les Républicains, qui sont toujours, on le sait, pour toutes les formations, largement gonflés. Si on arrive à 50 000, en réalité, c'est peut-être déjà bien. Et puis, troisième chose, c'était théoriquement une usine à idées, un parti politique. Et là, pour le coup, on ne peut pas dire que le logiciel de la droite a été puissamment rénové ces derniers mois.
Alors, puisque vous parlez de logiciel de la droite, il y a dans Le Figaro du jour une interview de Florence Berthoux. Elle est présidente du groupe Les Républicains à la mairie de Paris. Elle veut bâtir une nouvelle alternative à Hidalgo, je la cite. Et donc, elle soutient Emmanuel Macron. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de discussions de positionnement idéologique, je la cite, toujours avec Bruno Le Maire et Philippe Grandjean, un conseiller d'Emmanuel Macron. Est-ce que, tout simplement, le siphonnage en cours, pour des raisons évidemment de positionnement idéologique, comme on le comprend bien, Gérard Courtois n'est pas en train de résoudre, en tout cas temporairement, la question du positionnement des Républicains?
Si, parce que bon, alors vous ironisiez sur ces choix idéologiques structurants. Non, il est clair que, et on l'a vu avec l'appel des maires et des élus locaux ce week-end avant les municipales, on le voit avec la défection de Valérie Pécresse, présidente de région, qui a quand même en tête l'horizon des prochaines élections régionales en 2021. On le voit avec Florence Berthoux. Il y a effectivement la tentation très forte de décoller les étiquette d'un parti qui apparaît comme un parti ringard, conservateur, poussiéreux, etc. Et qui fait 8%. C'est vrai que c'est pas un socle et un tremplin très très encourageant. Mais au-delà de ça, il y a effectivement une hémorragie générale. C'est-à-dire, on a vu l'hémorragie des électeurs. Je reste accroché à ce chiffre qui m'a paru sidérant que François-Xavier Bellamy fait 1 900 000 voix, c'est-à-dire exactement le nombre de voix de François Fillon au premier tour de la primaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'os de l'os de la droite, appelons-la conservatrice, catholique, vous l'évoquiez avant le journal, conservatrice, catholique et provinciale, mais même plus urbaine. La bourgeoisie urbaine est passée chez La République En Marche. Donc, il y a l'hémorragie électorale, il y a l'hémorragie militante. Frédéric Sens l'évoquait à l'instant, à peu près 50 000 en réalité adhérents. En 2015, c'est pas très lointain, quand il a reconstruit Les Républicains, Nicolas Sarkozy avait l'ambition d'en réunir 500 000. L'hémorragie des caciques. Donc, il y a quand même une perte de substance extrêmement violente qui est en train de se passer. Alors, moi, j'ajouterais aux deux scénarios qu'évoquait Florence Hegel, le troisième, qui est que l'affaiblissement d'Emmanuel Macron ne remplissent pas, si je puis dire, le camp de la droite traditionnelle, mais que, entre-temps, le rapprochement, l'union, l'alliance des droites qu'espère Marion Maréchal Le Pen, mais qui est le projet stratégique de Patrick Buisson depuis toujours, se produisent, y compris à l'occasion des municipales, y compris à l'occasion des élections locales.
On va écouter à ce propos une inconnue, je veux dire inconnue au sens mathématique du terme, l'avenir de Marion Maréchal, qui a refait surface publiquement il y a quelques jours. Écoutez-la.
Je considère que le Rassemblement National, puisque c'est son nom aujourd'hui, est indispensable à la vie politique, mais je pense que malheureusement il n'est pas suffisant et qu'il faut le dépasser, ou en tout cas il faut permettre qu'il puisse y avoir d'autres voix qui s'expriment à travers d'autres mouvements courants qui puissent demain permettre, je l'espère, un grand, disons, compromis patriotique autour de cette idée de défense de la nation qui puisse aboutir à des coalitions gouvernementales, pourquoi pas, ou des alliances de circonstances à des élections, comme ça peut se pratiquer dans d'autres pays, et qui serait la seule solution, eu égard à nos modes de scrutin, parce que c'est ça en fait le vrai sujet, pour contrer le grand projet progressiste.
Alors ça, c'est donc Marion Maréchal. Y a-t-il de l'espace pour un mouvement de ce type, sachant que le projet, finalement, c'est une union des Républicains et du Rassemblement National?
Je pense qu'il y a en tout cas un espace selon la géographie en fait française. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si Marion Maréchal Le Pen est dans le sud de la France. Et ce que l'on sait très bien, c'est que il y a deux fronts nationaux. Il y a deux fronts nationaux d'un point de vue électoral, mais il y a finalement aussi deux fronts nationaux d'un point de vue de l'organisation, celui du Sud et celui du Nord. Et celui du Sud rallie finalement une classe moyenne plutôt qu'une classe populaire, hein, dans un périurbain pavillonnaire, hein, et est tout à fait prêt à faire alliance avec la droite conservatrice ou classique. Et donc, en effet, au sud, la multiplication de types d'alliances LRFN, RN, est tout à fait probable. En revanche, il y a quand même un Front National du Nord, plus populaire, plus en crise industrielle, et ralliant plutôt des électeurs venant de la gauche. Et là, c'est sans doute plus difficile. Donc je pense que, et c'est pas un hasard si Marine Le Pen est implantée dans le Nord et Marion Maréchal Le Pen implantée dans le Sud. Donc je pense qu'il y aura aussi des configurations d'alliances à géographie variable.
Gérard Courtois.
Je pense qu'il y a cette complémentarité Nord-Sud qu'on présente comme une forme de différence parfois insurmontable, mais à mon avis qui est une vraie complémentarité. De la même manière, il me semble qu'il y a une complémentarité, malgré tout ce qu'on dit sur les bisbilles entre la tante et la nièce, Marine Le Pen, Marion Maréchal, je pense qu'il y a une vraie complémentarité des démarches. À terme, on peut imaginer toutes les querelles de famille. Il n'empêche que c'est une bonne répartition des rôles. Le good cop, bad cop, il y en a une qui cajole, l'autre qui est plutôt dans le genre rentre-dedans. Mais à l'arrivée, la démarche, l'objectif est le même, c'est faire exploser la droite et la récupérer. Et en récupérer les cadres. Et les cadres, les élus, parce que le Front National en manque cruellement.
Oui, mais alors, le problème, c'est pour le Rassemblement National, pour un Rassemblement National élargi, de réussir à triompher. Alors, l'expression est assez mal choisie, mais ce plafond de verre qui fait que le Rassemblement National, hier le Front National, a du mal à dépasser 30-35%. Ça semble être aujourd'hui une limite maximale. Qu'est-ce qui peut permettre de penser qu'un jour il triomphera de cette limite, Gérard Courtois?
C'est ce que disait Frédéric Seyss tout à l'heure, qu'il n'y ait plus d'autres alternatives nouvelles proposées aux Français que celle-là. Une alternative non essayée jusque-là. La droite classique, traditionnelle, n'arrive pas à reconstruire une proposition politique qui soit à la fois moderne et convaincante et pertinente. Le président de la République et son camp, y compris sous l'effet banal de l'exercice du pouvoir, perdent des plumes en termes de capacité de convaincre. Alors, question, est-ce que la gauche arrivera à reconstruire une proposition qui ne soit pas une proposition éclatée entre les écologistes, la social-démocratie et la gauche radicale? Bon, si jamais la gauche arrivait à reconstruire quelque chose qui soit un peu convergent, on a là un espace de proposition potentielle qui existe. Et un espace politique, un espace électoral qui existe. En revanche, donc qu'est-ce qui peut empêcher le Front National, ou qu'est-ce qui peut permettre au Front National de franchir ce plafond, c'est l'effondrement et du pouvoir en place et des alternatives traditionnelles. Et le moment où les gens vont se dire bon ben ceux-là on les a jamais essayés. Imaginons que aux élections municipales puis locales de 2020-2021, une partie de la droite, certains actuellement rejoignent le camp du président, mais d'autres demain peuvent, y compris dans le sud notamment, faire alliance avec dans des formes variées, souples, avec le Front National. Qu'est-ce qui se passera en 2022 pour ces gens-là? Moi, je ne prendrai pas le pari, comme vous disiez tout à l'heure.
Florence Hegel.
Moi, je prendrais pas non plus le pari, hein, c'est la sagesse, mais en même temps, je voudrais mettre dans la discussion un peu d'autres éléments, et la question de est-ce qu'il y a vraiment un vivier aussi important que cela d'électeurs pouvant se rallier au Rassemblement national. C'est une question parce que quand on regarde les enquêtes sur le long terme, je le disais tout à l'heure, il y a des points de convergence dans les électorats et il y a des points de divergence. Et ces points de divergence entre l'électorat Rassemblement national et l'électorat, disons LR, se sont accrus. C'est-à-dire que sur les questions économiques, les différences sont de plus en plus importantes entre les électeurs de Marine Le Pen et les électeurs de la droite. Sur les questions de l'immigration, il y a eu d'abord une convergence et depuis 2012, on voit plutôt une divergence. Hein, donc ils se sont rassemblés un petit peu, ils se sont rapprochés pendant la période sarkozyste, ils se sont maintenant un petit peu éloignés. Sur les questions de mœurs, c'est les LR qui sont plus conservateurs. Et c'était une question d'âge. Hein, c'était aussi une question d'âge. Et sur la question européenne, la différence s'accroît. Donc, je ne prendrai pas de pari, bien évidemment, mais en même temps, quand on voit sur le long terme l'évolution des valeurs, on se dit c'est peut-être, on est arrivé à une sorte de fin de passage de l'un à l'autre.
Frédéric Saïs.
C'est vrai que l'une des faiblesses, comme l'a dit Gérard Courtois, du Rassemblement National, c'est qu'il n'y avait pas de cadre, c'est qu'il n'y avait pas de personnalité forte, charismatique, puissante, capable d'aller dans les médias pour arriver à conquérir de nouveaux électeurs. En même temps, c'est aussi paradoxalement une force pour le Rassemblement National, dans la mesure où ça a permis au clan Le Pen de régner en maître et surtout de ne pas avoir de concurrent quasiment sur cet espace idéologique qui aujourd'hui est entre 20 et 25%. Toutes les alternatives qui ont essayé de se lancer ont échoué. Alors on ne va pas remonter à Bruno Maigret à la fin des années 90, mais même Florian Philippot qui a fait sécession après la présidentielle de 2017 en se disant que ce qui comptait c'était une forme d'euroscepticisme, en tout cas de souverainisme davantage qu'un discours sur l'immigration, etc. Il a fait moins de 1% aux élections européennes. Nicolas Dupont-Aignan, il est à 3%, il reste à 3% d'élection en élection. Et finalement, c'est un parti qui ne se divise pas. En tout cas, c'est un mouvement idéologique qui est pour l'instant représenté par une seule chapelle, si j'ose dire.
L'autre inconnu, c'est l'état de la gauche. Gérard Courtois, est-ce qu'après toujours les européennes, sauf si on considère que c'est un artefact et qu'il faut mettre entre parenthèses ce scrutin, y a-t-il une possibilité pour la gauche de réunir plus de 30% des voix? Je mets à l'intérieur des voix dites de gauche, les écologistes, qui est peut-être d'ailleurs un mauvais calcul.
En tout cas, ce n'est pas le calcul que semble pour l'instant faire Yannick Jadot, à l'évidence. Puisqu'il veut précisément s'extraire de cette famille politique ou s'en émanciper. On est devant... c'est un peu l'année zéro, là. On était à l'année zéro en 2017 pour le Parti Socialiste. On est aujourd'hui à l'année zéro pour la France Insoumise, qui paye... qui paye cash, si je puis dire, les emballements de son leader maximal, Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce qu'il n'y a qu'une question d'incarnation pour la France insoumise? Parce qu'il y avait aussi une stratégie, justement, une stratégie qui tendait à effacer le mot de gauche, qui était minorisant et rebutant, comme à la France insoumise.
Précisément. Je pense que, à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de, pour des raisons qui sont à la fois intellectuelles, idéologiques, mais aussi, me semble-t-il, personnel, et c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a quelque chose du ressentiment dans tout ça, a fait le choix d'effacer la gauche de son projet, et d'aller au peuple et non plus de reconstruire une force de gauche, alors qu'il était en position de le faire il y a 2 ans. Ayant réussi à obtenir quasiment 20% des voix au premier tour de la présidentielle quand le PS s'était effondré.
Mais alors, il a récupéré justement certaines personnes du PS.
Oui, mais il les a reperdues depuis, à l'évidence et au-delà. C'est assez difficile de construire une dynamique politique en disant je vais tuer les autres. On peut peut-être le faire, ce que Mitterrand avait fait il y a 40 ans avec le Parti communiste, sans le dire, mais c'est difficile de le faire en le disant, parce que ça crée quand même quelques tensions avec ceux qu'on veut absorber, et quelques réactions de défense. La question aujourd'hui, donc c'est année zéro pour le PS, c'est retour à la case départ pour la France insoumise. Et c'est année zéro pour les écologistes, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, voilà, si ils s'inscrivent dans une dynamique de reconstruction d'une force sociale et écologique, comme certains le préconisent à gauche, ou s'ils restent sur une ligne strictement écologique, comme Yannick Jadot l'a défendu pendant les élections européennes, le scrutin européen, ça donne des stratégies très différentes. Ça laisse, c'est-à-dire ça crée la possibilité d'avoir un camp qui trouve un candidat, question compliquée, capable de franchir la barre des 20%, qui est maintenant le seuil indispensable, pas beaucoup plus, hein, pour être présent au second tour d'une présidentielle. Si on reste dans un dispositif écolo d'un côté, PS insoumis de l'autre, les carottes sont cuites dès maintenant.
Florence Hegel, d'ailleurs, l'un des mea culpa des Républicains consiste à dire que l'écologie n'a pas été suffisamment présente. Je crois même qu'elle ne l'a pas été du tout dans leur programme aux européennes. Est-ce que cela est susceptible d'œuvrer pour un retour de la droite, pour un retour des Républicains si d'aventure ils avaient un discours écologiste ou une autre configuration?
C'est un peu une figure imposée en ce moment, hein, de faire son mea culpa sur l'écologie. Moi, je pense que la droite aura quand même une tension entre l'enjeu écologique, hein, et la question de la croissance économique. Hein, et cette tension, elle est au cœur de son idéologie, avec d'un côté l'idée qu'il faut vraiment soutenir les entreprises, et de l'autre côté qu'il faut peut-être les taxer pour justement mener une politique d'environnement, etc. Donc reste cette tension, donc entre le mea culpa général et des véritables politiques publiques qui permettent de concilier les deux, il y a du travail.
Frédéric, oui, ce qui était intéressant sur l'écologie dans le programme de LR, il y avait quand même une mention de ce sujet-là au travers de la barrière douanière qui était proposée, alors non pas aux frontières de la France, mais aux frontières de l'Union européenne, qui était un premier pas vers une forme de souverainisme européen, qui était pour le coup plutôt nouveau dans le logiciel de la droite, en tout cas, je veux dire, à ce niveau-là, au niveau vraiment du programme, sous Nicolas Sarkozy, par exemple, le mot protectionnisme était un gros mot. Je voudrais juste dire un mot de Jean-Luc Mélenchon aussi, parce que je trouve cette situation extrêmement intéressante. Il n'y a aucune voix publiquement, pour l'instant, qui ne réclame son départ au sein de la France insoumise, même après cet échec, parce qu'on sent que c'est quand même, en un sens, la clé de voûte de ce mouvement, y compris à l'Assemblée nationale. Vous avez des députés qui, en réalité, si on creuse bien, sont assez différents entre eux idéologiquement, pas sur l'économie, mais sur le rapport à la laïcité, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est le dénominateur commun. S'il n'est plus là, il risque d'y avoir un peu de bisbille. Et en même temps, c'est aussi effectivement un obstacle, puisque si demain il doit y avoir une alliance des partis de gauche, à gauche, on imagine assez mal Jean-Luc Mélenchon assis à la table avec les autres responsables, qui l'a un à un insulté au cours de ces dernières années en disant qu'un tel est trop mou, l'autre est trop dogmatique, l'autre n'a rien compris, etc.
Il faut tout
ça va devenir très difficile. Et voilà, exactement. Donc, est-ce que les gens vont venir à son banquet pour se faire manger? C'est pas sûr.
Il y a quand même eu différents appels, je pense à celui qu'a lancé Clémentine Autain au texte qu'a rédigé Charlotte Girard, qui étaient des discours visant, sans le nommer, mais bon, qui nommait d'autres dans ce domaine, nommant donc une stratégie qui, d'après elle, était une stratégie malheureuse pour la France insoumise.
Oui, c'est vrai, mais à aucun moment, contrairement chez les Républicains par exemple, où Éric Woerth, quelqu'un d'assez modéré dans son expression d'habitude, a demandé nommément noir sur blanc dans le Figaro à Laurent Wauquiez de partir, personne n'a osé faire ça. Parce que derrière lui, encore une fois, ce serait un désordre absolu. Et puis par ailleurs, la situation n'est pas vraiment symétrique dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon a créé le parti de gauche d'abord en 2008, puis est transformé en la France insoumise. Pour le coup, Laurent Wauquiez n'était que l'énième locataire de la maison RPR, UMP, puis les Républicains.
Florence Hegel.
Moi, je trouve aussi ce qui est intéressant dans les débats dans la France insoumise, c'est cette question de la forme partisane. On a dit on va avoir une nouvelle forme. Et en réalité, cette nouvelle forme se fonde essentiellement sur de la très forte personnalisation, que ça soit la France insoumise ou la République en marche. Donc, c'est aussi ça. ça qui est intéressant, c'est l'émergence de ces formes très personnalisées du parti.
Même chose d'ailleurs chez les Républicains, où on a pu lire que ce qu'il leur fallait était le retour par exemple de Nicolas Sarkozy.
Oui, donc pour revenir sur la forme parti qu'évoquait Florence Hegel à l'instant, je crois que c'est Mélenchon qui avait employé l'expression de parti à l'état gazeux. Et ce qui n'est pas mal vu, parce qu'au fond, comme la politique est à l'état gazeux, avoir un parti à l'état gazeux est plutôt approprié ou pertinent à première vue. Sauf que c'est explosif, l'état gazeux. Et qu'on est dans cette phase-là maintenant, y compris à la France insoumise, après, même si c'est vrai, pour l'instant, personne ne réclame le départ du chef, mais ça ne va pas tenir très longtemps, cet équilibre instable.
Un mot de conclusion, Florence Hegel. L'état instable, c'est vrai que c'est une situation politiquement étonnante, où on a l'impression que les partis traditionnels sont gazeux, le reste, on ne sait pas trop où il est. Il y a La République En Marche et le Rassemblement National qui semblent plutôt stables.
Je crois qu'on est vraiment dans une transformation profonde du système partisan, et pas simplement en France, hein, en Europe. Et donc, c'est pas juste conjoncturel.
Merci à tous les trois, Frédéric Seitz, Gérard Courtois. La fin d'un monde, chronique politique, c'est chez Perrin, Florence Hegel, les droites en fusion, transformation de l'UMP.